Et à la une de la science, Axel, aujourd'hui, les virus que nous avons partagés avec l'homme de Néandertal. Ah ben dis donc, c'est pas
alors,
la forme dans la grotte.
Voilà, hein. C'est une tentative de reconstitution d'une quinte de tout néandertalienne.
Tentative,
voilà. On va parler de nos relations avec ces lointains cousins qui se précisent de publication en publication. Il y a environ 50 000 ans, nous avons partagé avec les hommes de Néandertal des territoires, des gènes, mais aussi du coup des maladies. Et ça paraît logique. Une nouvelle étude détaille les types de virus et les moyens de les combattre que nous avons hérités de Néandertal. Et on en parle avec vous, Evelyne Ayer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur en anthropologie génétique au Muséum National d'Histoire Naturelle et on va commenter ces travaux publiés dans la revue Cell. Alors, j'imagine qu'on s'en doutait un peu qu'on avait partagé des virus et des maladies avec l'homme de Néandertal, je veux dire, avant cette publication.
Oui, ben on s'en doutait parce qu'on coexistait, même si c'était à une échelle géographique assez large. Hein. Il n'y a pas de grotte où il y a à la fois du Néandertal et nous, les sapiens. Et puis aussi, on sait que dans l'évolution de l'homme, la lutte contre les pathogènes, la résistance aux pathogènes, dont les virus, est un moteur fort de l'évolution.
Du coup, la nouveauté, là, c'est d'avoir mis des noms sur les virus ou d'avoir trouvé les moyens de les combattre qu'on partageait?
En fait, la nouveauté, c'est qu'ils essayent, à partir des données génétiques, de deviner quels sont les virus que portait Néandertal, qui nous ont transmis, donc les virus, en regardant finalement les résistances aux virus qu'on a développées dans notre génome.
Ça veut dire les résistances qu'on aurait héritées, alors?
Dans ce cas-là, ils regardent les résistances qu'on a héritées de Néandertal. L'idée, c'est que Néandertal et nous, on aurait partagé des virus. Et du coup, les gènes que l'on a reçus de Néandertal qui permettaient de lutter contre ces virus ont été avantageux et ont permis aux gens qui les portaient de mieux résister et du coup d'être transmis jusqu'à nos jours.
On connaît aussi bien l'évolution des virus que celle des hommes il y a 100 000, 50 000 ans?
Non, les virus, ça mute très vite, ça bouge très vite, et donc c'est plus difficile à une échelle de temps aussi éloignée.
Bah justement, comment on procède? Parce que c'est pas marqué dessus, virus néandertalien. Alors comment on fait dans les labos, là?
Eh ben, en fait, dans les labos, on se dit, bon, on reçoit un bout de génome de Néandertal. Si on l'a encore, c'est qu'il était important. Et donc, on regarde parmi tous ces gènes-là, ceux qui pourraient être liés au fait qu'on ait eu à se battre contre les mêmes virus que ceux de Néandertal.
Alors du coup, parmi nos défenses immunitaires et la génétique qui est derrière, quels sont les types de virus qui étaient partagés il y a 50 000 ans?
Alors eux, ce qu'ils trouvent, mais attention, hein, c'est une étude qui est à mon avis pour les virologues un peu trop vaste, mais néanmoins, ils trouvent une classe de gènes qui serait dans les maladies comme l'hépatite C, et dans les maladies comme le VIH, pas le VIH, mais dans l'ensemble, je dirais, des virus type VIH.
Comment il faut l'interpréter, là, ce que vous nous dites, alors exactement, par rapport à ces maladies? C'est directement hérité de Néandertal ou ce sont quelques gènes
En fait, on sait que pour résister à des maladies, il y a des gènes impliqués pour résister à des maladies. On sait qu'il y a plutôt certains gènes qui permettent de résister plutôt à telle ou telle maladie transmise par les virus. Et du coup, ils se disent, dans le génome qu'on a reçu de Néandertal, quels sont les gènes qu'on a reçus? On trouve des gènes qui seraient plutôt liés à certains virus et du coup on se dit ça doit correspondre aux virus qu'on partageait avec Néandertal. Alors, donc c'est un raisonnement logique mais indirect.
Donc il faut ajouter une part d'immunité dans les 2-3% de notre génome qui est néandertalien. On avait du métabolisme, des choses sur l'apparence, maintenant il faut mettre l'immunité?
Alors on savait déjà qu'on avait des gènes impliqués dans l'immunité. Il y a une très belle équipe à Paris, à Pasteur, l'équipe de Luis Quintana Mercy, qui avait montré que certains des gènes impliqués dans l'immunité native étaient aussi reçus de Néandertal et il y avait eu d'autres études. Mais là, en fait, l'astuce de l'étude, c'est de se dire, est-ce qu'on pourrait pas retracer aussi quels étaient les virus qu'on a bien pu partager avec ceux de Néandertal. Donc c'est d'aller un peu plus loin.
C'est essayer de comprendre la vie de ces gens à travers leurs gènes et les différences aujourd'hui, c'est ça aussi alors.
Ouais, c'est le challenge. C'est voilà, il nous reste des traces génétiques. Est-ce qu'à partir de ça, on peut pas mieux comprendre finalement comment vivait Néandertal, comment vivait Sapiens?
Alors pourquoi est-ce qu'on trouve des gènes néandertaliens dans des domaines précis de notre biologie et pas dans un peu partout? Là on a dit métabolisme, apparence, là immunité. Pourquoi on n'a pas des gènes néandertaliens dans les yeux ou ailleurs?
Les individus qui ont été issus de croisements Néandertal-Sapiens, en général, comme on est quand même des espèces différentes, le mélange marche pas très bien. Donc on pense que ces individus-là étaient plus volontiers éliminés par la sélection naturelle, sauf si parmi les gènes qu'ils avaient reçus de Néandertal, il y avait un avantage. Et donc, par défaut, on retrouve des gènes transmis néandertal qui finalement ont été avantageux. Donc c'est pour ça qu'on retrouve des gènes impliqués dans le métabolisme, certains qui seraient liés entre guillemets au poil, à la cicatrisation de la peau, et bien sûr ceux qui peuvent aider dans la lutte contre les pathogènes.
Evelyne, est-ce que certains de nos gènes homo sapiens auraient pu être fatals à Néandertal justement ?
Alors dans ce sens-là, on ne le sait pas, mais on retrouve dans le génome de Néandertal des gènes qui sont venus de sapiens aussi. Mais là, ça devient plus compliqué parce que le génome de Néandertal est quand même de moins bonne qualité que le génome humain actuel, vu qu'il est ancien et qu'il s'est dégradé.
Alors, comme vous dites qu'on a gardé que le meilleur, ça veut dire que notre immunité a été renforcée par ces hybridations. On peut le dire comme ça.
On peut dire que cette hybridation a permis de renforcer l'immunité. Mais ça, on le trouve aussi dans les populations actuelles. Quand des populations assez différentes se mélangent, on a pu mesurer ce qu'on appelle de l'introgression adaptative.
Ah ben c'est joli ça, dites donc.
C'est chouette.
Et on va se quitter sur ces mots-là. Introgression adaptative, on va le ressortir ce soir dans les dîners en ville. On et puis il y a une exposition en ce moment, voilà. Axel. Hein.
L'expo Néandertal au Musée de l'Homme, et c'est jusqu'à fin janvier, début janvier.
Début janvier.
À ne pas manquer, merci beaucoup d'être venu cet après-midi à la Une de la Science. Et Axel, on se retrouve demain.
À demain.
Merci, au revoir.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, nous pouvons reconnaître en moyenne 5000 visages. C'est une équipe de chercheurs anglais de l'Université d'York qui donne la première estimation du nombre de visages dont notre cerveau serait capable de se souvenir. Pour ce faire, les chercheurs ont demandé à 25 participants de citer ou de nommer le plus de visages connus possible en un délai d'une heure. En se basant sur le rythme des citations très rapide au début, puis en ralentissant ensuite, ils estiment qu'en moyenne, donc, nous pourrions reconnaître 5000 visages. Pendant l'éclipse, les abeilles se taisent. Une observation originale faite par des chercheurs du Missouri. Ils ont enregistré le comportement de plusieurs ruches pendant l'éclipse totale du 21 août aux États-Unis. En équipant l'entrée des ruches de mini-microphones et de capteurs de température, ils montrent que l'activité de la colonie diminue progressivement puis tombe à zéro au moment où le soleil disparaît. Silence, aucun mouvement, un moment comme suspendu, décrit par les chercheurs. Et puis trois joueurs de Tetris ont connecté leur cerveau pour une partie sans les mains. L'expérience menée aux États-Unis est une première dans le domaine de la collaboration par la pensée. Équipée d'électroencéphalogrammes, les joueurs devaient prendre des décisions en commun sur le devenir des briques dans le jeu. Faire des choix comme par exemple choisir de faire tourner ou non les petits blocs de placement. Même si le jeu était particulièrement ralenti pour l'expérience, le taux de réussite des différents groupes de joueurs était de 81%, ce qui n'est pas mal pour une première.